Alors, nous voilà de retour. Tel que mentionné, il y a de ça une dizaine de minutes, on a l'alignement partant pour le match du CF Montréal de cet après-midi. Leur premier match en tant qu'organisation se nommant le CF Montréal. On va en discuter tout de suite avec Vandril Lefebvre. Salut, Vandril!
Salut, Jamy!
Alors, Vandril, c'est le même alignement qu'on a présenté la semaine dernière contre Tampa. Donc, Clément Diop devant le filet, 5 défenseurs en Kiza, Miller, Camacho, Waterman, Zach Broguillard, 2 milieux défensifs, Wanyama et Piet, Mihailovic en milieu offensif et 2 attaquants, Toy et Romel Kyoto. Premièrement, y a-t-il des surprises là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire?
Ben, je te dirais que la défense, non pas qu'elle sort de l'ordinaire en raison du contexte, elle sort de l'ordinaire parce que je pense que d'ici quelques semaines, elle sera remaniée. Je vois pas un Joel Waterman être un partant de prime abord dans cette équipe. Donc, il y a de la jeunesse, il y a de la nouveauté, ça va être assez intéressant. Et devant, par contre, il y a de la grosse présence physique. Hein, entre Mason Toy et Romel Kyoto, il va y avoir des joueurs capables de garder le ballon et d'attendre le soutien.
Ben, défensivement, tu as raison de le mentionner. Je pense que Joel Waterman, c'est temporaire. On sait que Louis Binks a une petite blessure, sauf qu'il s'entraîne au moment où on se parle. Il n'est pas dans l'alignement aujourd'hui, il n'est même pas sur le banc. Mais on dit que c'est une question de quelques jours seulement. Donc, peut-être un retour au jeu dans son cas la semaine prochaine ou la semaine suivante. Donc, je pense pas qu'on va se priver d'un gars comme Binks. Aussi, dans le cas de Bjorn Johnson, il a dû malheureusement faire une quarantaine assez longue puisqu'il revenait d'un pays où il y avait certaines complications. Donc, il a dû faire une quarantaine, n'a pas eu beaucoup de temps pour se mettre en jambes, d'où le départ de Mason Toy. Mais Mason Toy, la saison dernière, on est allé le chercher. Ça n'a pas été un succès. Il a dit lui-même qu'il avait peut-être eu une petite intimidation par rapport au fait que Thierry Henry était son entraîneur, son idole de jeunesse. Sauf que là, on dit qu'il arrive avec une énergie différente. Il a marqué 2 buts, 1 passe la semaine dernière contre une équipe de la USL. Oui, mais est-ce que Mason Toy, de ce que tu as vu la saison dernière, il y a quelque chose à faire avec ce gars-là?
Pas de ce que j'ai vu, Jérémy. Mais il y a quelque chose à faire avec Mason Toy. C'est évident, oui, quand il est arrivé... À l'Impact de Montréal l'an dernier, ça a été difficile pour toutes sortes de raisons, puis lui seul a probablement l'explication. Mais moi, je m'attends à voir c'est un bon joueur, hein, Jérémy Mason Toy. Donc moi, je m'attends à voir un joueur qui va aider le club cette année. Est-ce qu'il sera dans une rotation avec plusieurs attaquants? Il va avoir du temps de jeu. Je m'attends pas à ce que ce soit un partant nécessairement, mais les cartes sont là pour lui d'essayer de faire son trou. Il a la chance de commencer la saison comme titulaire. C'est un luxe qu'il saisit sa chance.
Oui, absolument. Et l'autre joueur absent, c'est Lasse Lapalainen qui est aussi blessé. On attend le feu vert dans son cas. Donc, ça fait en sorte qu'on a un banc, on va se le dire, qui est bon, on a de la présence sur le banc, mais t'as pas un joueur que tu dis, hey, lui, quand je vais le faire rentrer, attention. On ne sait pas à quel point Bjorn Johnson peut en donner pour le match d'aujourd'hui. Il y a Eric Hurtado qui est un vétéran de la MLS qui peut te donner peut-être un coup de pouce, mais. Mais avec ton expérience de joueur, 2 matchs de préparation seulement contre des équipes d'un calibre quand même inférieur, dans des matchs où aussi on a sorti certains joueurs au bout de 45 minutes, 60 minutes, les crampes vont commencer à se faire sentir à quel moment pour le CF Montréal cet après-midi?
Écoute, c'est sûr que ça va être à partir de l'heure de jeu, Jérémy, ça va commencer à être un peu plus difficile. Pour moi, là, en termes de plan de match, si je suis le club de foot Montréal, la chose la plus importante, c'est le premier quart d'heure de jeu. C'est le premier quart d'heure de jeu d'un match contre Toronto, c'est le premier quart d'heure de jeu d'un premier match d'une saison dans laquelle on n'a pas fondamentalement eu une excellente préparation en termes de contenu, parce qu'on était limité, parce que les joueurs n'étaient pas là, puis on n'a pas eu beaucoup de matchs. Le premier quart d'heure, il va falloir laisser passer la tempête, parce que je m'attends à ce que Toronto... En raison de leur préparation un peu plus fournie, en raison du match qu'ils ont eu en milieu de semaine, s'ils sont capables de plier le match tôt dans cette partie, ils s'en priveront pas pour pouvoir derrière éventuellement faire une rotation qui leur sourira. Donc laisser passer la tempête de première 10 à 15 minutes va être capital pour ce club de foot Montréal.
Et peut-être essayer de garder un tempo de match tranquille au début, parce qu'on veut pas brûler nos cartouches en début de match et se retrouver justement à l'heure de jeu et tout le monde est à terre, tout le monde est fatigué, tout le monde est brûlé. Donc, il va falloir quand même essayer de ménager certains efforts et jouer un style de jeu qui va nous permettre de le faire, là.
Oui, et tu sais qu'est-ce qui va être important, Jérémy? Et là, pour le coup, c'est dans l'ADN et la philosophie du club de foot Montréal depuis maintenant 1-2 ans. Ça va être de garder le ballon. Le piège dans lequel il faut pas tomber, c'est de dire on va éloigner la tempête en envoyant le ballon devant, mais il va revenir aussi vite.
Ouais.
Ça va être important de faire courir Toronto, parce que c'est une équipe qui aime normalement avoir le ballon. Et courir derrière le ballon, ça va pas leur plaire, ça va les user et ça va sourire au club de foot Montréal, à mon avis.
Du côté de Toronto, il y a plusieurs blessés. Il y a une dizaine de joueurs sur la liste des blessés. Eux aussi, ça a été une préparation compliquée. Ils ont dû se déplacer pour aller jouer en Ligue des champions. Ils ont très bien fait, soit dit en passant. Ils ont éliminé le club León, champion mexicain, dans la dernière semaine. Sans plusieurs joueurs clés, c'était pratiquement une équipe B qu'on avait sur le terrain. Pozuelo n'y était pas, Altidore, Mavinga non plus. D'ailleurs, ces trois-là n'y seront pas aussi cet après-midi. Est-ce qu'il y a un coup à jouer du côté du CF Montréal? Parce qu'on va se le dire, pour Toronto, le moment de gloire, c'était mercredi, quand on a sorti Club León. Le début de la saison, on sait qu'on a encore du temps pour se racheter, alors que pour le CF Montréal, c'est le moment, le moment de gloire, c'est aujourd'hui, c'est le moment où on met tout en place. J'ai comme l'impression que peut-être que l'élément motivation va être plus fort du côté de Montréal que du côté de Toronto.
Écoute, moi, ce à quoi je m'attends, c'est un match qui va être particulier, peut-être plus serré que ce qu'on le pense. Et ça, c'est à l'avantage du club de foot Montréal parce que personne ne les attend. On parle des experts, nous-mêmes, on a fait ce travail-là la semaine dernière d'analyse et on ne les attend pas. Puis moi, je les vois perdants aujourd'hui, pour être honnête. Ouais. Mais en disant ça, je sais qu'il y a un coup à jouer en raison du contexte. Par contre, même quand j'étais joueur, il y avait quelque chose qui nous énervait un petit peu avec Toronto à partir du, je dirais, au milieu des années, à peu près dans les années 2015-2016, et ça s'est suivi jusqu'à aujourd'hui, c'est que peu importe les joueurs qu'ils mettent sur le terrain, peu importe les blessures et les absents, c'est une équipe qui a une philosophie extrêmement claire et dont le contenu de jeu est toujours le même et c'est de la qualité. Ouais. Et ça, c'est énervant parce que tu sais que peu importe qui ils mettent sur le terrain, le système est huilé puis ils vont te faire courir.
Oui, ça c'est certain. On a un nouvel entraîneur avec Chris Armas du côté du Toronto FC, ancien entraîneur des Red Bulls de New York. On verra si ça va changer un petit peu la philosophie de l'équipe. On a un joueur qui aura un rôle très important. C'est un nouveau venu aussi. Il s'appelle Georgi Mihailovic. C'est un milieu de terrain qui va jouer à la position de numéro 10, donc milieu de terrain offensif. Il arrive de Chicago, là où ça ne s'est pas trop bien passé pour lui. C'est un natif de la région de Chicago. C'est un jeune homme qui a des ambitions d'un jour aller jouer en Europe, mais il doit encore démontrer qu'il peut dominer la MLS. Est-ce que c'est une acquisition qui, selon toi, va faire la différence chez le CF Montréal? Est-ce que c'est un joueur qu'on va regarder cet après-midi et on va dire « OK, je le vois, il est là, il est actif, il peut faire une différence? »
Pardonne-moi l'anglicisme qui arrive là, mais c'est un joueur qui a un upside absolument énorme, Georgi Mihailovic. Mais avec ce type de joueur vient, je dirais, il y a des défauts qui viennent avec ce type de qualité qu'il a. C'est-à-dire que c'est des joueurs extrêmement bons techniquement, avec une vista, comme on dit, avec une capacité à faire la différence. Mais malheureusement, c'est le genre de joueur aussi qui, parfois, dans des moments difficiles, dans des matchs qui peuvent être un peu durs physiquement, où il peut ne pas toucher le ballon pendant un certain temps, c'est un joueur qui peut avoir tendance à disparaître et s'effacer. Son vrai défi à lui, ça va être de s'inscrire dans la longévité, ça va être d'inscrire une régularité où on sera capable de dire « Georgi Mihailovic, samedi prochain ou samedi encore après, je sais ce que je peux m'attendre de lui. » Et pour Wilfried, l'entraîneur, c'est capital. Si tu ne sais pas ton numéro 10, est-ce qu'aujourd'hui, il va être un 4 sur 10 ou est-ce qu'il va être un 8 sur 10? C'est problématique.
Oui, alors Georgi Mihailovic aura Michael Bradley dans le visage tout l'après-midi. Bradley, par contre, a un certain âge. Il a joué en milieu de semaine mercredi. Est-ce qu'il sera en forme pour jouer 90 minutes? On verra, mais c'est un gars qui est toujours très compétitif sur le terrain. On a pris une décision cette semaine par rapport au capitaine. On s'attendait tous à ce qu'il y ait une nomination officielle. Finalement, ça n'a pas été le cas. On a nommé un trio de capitaines. Donc, Samuel Piette, Victor Wanyama et Kamal Miller vont se partager le brassard de capitaine. On verra qui le portera pour le match de cet après-midi. Mais comment as-tu réagi à cette nouvelle?
Ça me surprend pas. Pour être très honnête, je m'attendais à ce qu'encore une fois, il y ait une forme... Non, je dirais pas non pas d'ambiguïté, parce qu'au final, c'est très clair. On a nommé un trio. C'est le trio... Oui, il y en a un qui nous surprend un petit peu parce que c'est un nouveau venu, mais il y en a deux des trois, c'est absolument pas surprenant. Donc, je dirais, c'est particulier. On va voir s'il y a une alternance. C'est juste dommage, je dirais, pour Samuel Piette, parce que peut-être c'était le moment pour lui de... d'avoir la capacité de s'affirmer et d'être nommé le leader, ouais, autant sur le terrain, autant techniquement, autant le leader médiatique de cette équipe. Là, il sera, si ce n'est en alternance, il sera dans un trio. Écoute, en toi et moi, c'est pas extrêmement important, parce que qui porte le brassard, qui ne le porte pas, à la fin, si tu es un leader, tu t'exprimeras de la même manière.
Mais on dirait que la nomination d'un capitaine, ça a aussi un impact visuellement sur ta franchise. Je pense que si cette semaine, on avait fait une annonce officielle qu'on donnait le titre de capitaine à Samuel Piette, il y aurait eu un coup à faire là, du côté marketing, du côté un peu d'aller chercher l'excitation du public, d'exposer un gars qui, on sait, ça fait un bon bout de temps qu'il est avec le club, est un gars local, puis qu'on espère et on aime voir obtenir du succès. Je pense qu'on on a manqué un petit peu notre coup à ce niveau-là. Puis j'ai souvent eu l'impression du côté du CF Montréal que c'était toujours un peu ambigu. Je me souviens que Nacho Piatti est devenu le capitaine, mais n'a jamais été officiellement nommé. Ensuite de ça, on a eu un gars comme Yuka Raitala qui sort un peu de nulle part, qui est nommé capitaine la saison dernière alors que personne s'attendait à ça. Je sais pas. Est-ce que c'est moi qui m'en fais trop, ou est-ce que juste d'avoir un processus normal d'arriver à une décision, nommer un capitaine et le faire sur la place public, c'est dépassé, quoi?
Mais c'est une bonne question, ce que tu poses, Yannick. Puis là, j'étais en train de fouiller dans ma mémoire en même temps que tu parlais. Puis pourtant, il y en a eu des leaders charismatiques, hein, dans cette équipe. Si je pense successivement à ceux que j'ai connus, moi, Daisy Arnaud.
Oui, Patrice qui a été capitaine. Bernier, oui.
Exactement. Patrice Bernier, Ignacio Piatti. C'était des leaders charismatiques, chacun à leur manière, mais je peux te dire que leur manière de mener le groupe, il n'y avait pas d'ambiguïté. Après, maintenant, je suis sorti de ce vestiaire depuis un certain nombre d'années. De l'extérieur, j'avais pas le sentiment, mais c'est mon propre avis, mais que Yuka Raitala avait fondamentalement beaucoup de charisme pour mener cette équipe. C'est vraiment mon avis très personnel de l'extérieur. Mmh. Par contre, Samuel Piette a cette capacité-là. Et je pense que Victor Wanyama aussi. Ce que j'espère, c'est qu'au-delà de nomination officielle, duo, trio, peu importe, c'est que celui qui portera le brassard et ses acolytes auront cette capacité, de par leur charisme, à mener cette équipe. Je pense que l'an dernier, on souffrait d'une absence de leadership par le fait même de celui qui était capitaine.
Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. En tout cas, s'il y en a un cet après-midi qui peut propager à l'entrée de l'équipe sur le terrain, ce que ça veut dire, la rivalité Toronto-Montréal, c'est bien Samuel Piette. Parlons un petit peu maintenant de ce qui se passe devant la cage. On a nommé Clément Diop comme gardien numéro 1 de cette équipe, officiellement. Il y en a qui auraient peut-être aimé voir les deux gardiens batailler pour cette place de numéro 1, étant donné que James Pantemis a quand même connu de bons moments avec l'équipe nationale canadienne chez les U23, alors que Clément Diop n'a pas eu l'opportunité de disputer ce type de match. Est-ce que ça revenait à Clément Diop de commencer cette saison en tant que gardien numéro 1? Lui qui, on va se le dire, là, a été quand même un bon gardien pour Montréal depuis qu'on lui a donné le poste de numéro 1.
Écoute, pour répondre à ta question, je vais te poser une question un peu rhétorique. C'est quels auraient été les motifs pour qui que ce soit d'évincer Clément Diop au profit de James Pantemis? Aucun. Entre toi et moi, il n'y en avait aucun qui nous permettait de l'évincer hors de tout doute, Clément Diop. Donc pour moi, il est normal qu'il commence ce match d'aujourd'hui. La réelle question, c'est, dans l'esprit de Wilfried Nancy, à quel point cette position de numéro 1 et cette position de numéro 2, elle est figée? Et jusqu'à quel point, dans sa hiérarchie des gardiens, il y a un gap ou au contraire une forme de nivellation entre les deux postes qui pourrait nous amener, au bout de 10 matchs, dépendamment de la configuration et de l'affiche du club de foot Montréal, à peut-être du renouveau. Parce que moi, ce par contre à quoi je m'attends cette année, c'est que si Clément Diop ne performe pas, il aura moins de chances qu'il en a peut-être eu l'an dernier.
Ouais, parce que il faut comprendre qu'il est à sa dernière année de contrat, qu'on a un jeune en James Pantemis, un jeune Québécois qu'on forme depuis longtemps pour devenir éventuellement le gardien numéro un de cette équipe-là. Et il va falloir lui donner une chance, parce que si c'est lui qui va devenir le numéro un la saison prochaine, ben il va falloir qu'il commence à jouer des matchs cette année. On est aussi allé chercher un autre Québécois en Sébastien Brezza en Italie il y a de ça quelques semaines. Peut-être qu'on aura un tandem de gardiens Québécois à partir de l'année prochaine. Donc, il faut qu'à un moment donné, la transition commence. Mais comme tu viens de le mentionner, tout dépendra du classement et des performances des gardiens aussi. Si Diop est extraordinaire et que l'équipe se bat pour une place en série, ben, c'est lui qui va rester là, comme on dit.
Non, absolument. À la fin, c'est sûr que t'as le Clément Diop, il a clairement un avantage sur James Harden. C'est lui qui occupe la case. Donc jusqu'à preuve du contraire, si jamais il ne donne pas de motif de mauvaise performance pour que ce soit remis en question, ce sera lui.
Oui, absolument. En tout cas, je pense qu'il peut faire la différence. Il peut aller voler des points aux adversaires. Il l'a fait dans les années passées, donc il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas encore cette année. Maintenant, en parlant de constance, dernière question, Romel Kyoto obtient le départ encore une fois aujourd'hui. Romel Kyoto, l'année passée, a connu une très bonne année, première année à Montréal, alors que du côté de Houston, disons que ça allait moins bien depuis quelques saison. Est-ce que la saison dernière de Romel Kyoto, où il jouait pour un contrat, c'était une saison extraordinaire ou est-ce qu'il peut répéter ce qu'il a fait l'année passée, cette année et pour les prochaines années?
À coup sûr, Jérémy, c'était une saison extraordinaire. Est-ce qu'il peut quand même la répéter? Oui, parce qu'il n'a pas inventé ce qu'il a fait. C'est le fruit de son travail, c'est le fruit d'un certain nombre de choses et c'est un bon joueur de soccer, donc il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Par contre, sa capacité à répéter les exploits qu'il a fait l'an dernier, pour moi, elle est intrinsèquement liée à est-ce qu'il sera bien entouré cette année. L'an dernier, c'était extraordinaire parce qu'il était quasiment tout seul dans cette équipe pour mener offensivement le bleu-blanc-noir à l'époque. Donc cette année, ce que j'espère, c'est qu'il sera épaulé, l'attention sera sur d'autres joueurs que seulement lui. Et à ce moment-là, moi, je pense qu'on s'inscrit dans une configuration où je m'attends à voir un Romel Kyoto performer à peu près dans les mêmes standards que ceux qu'il a fait l'an dernier.
Ben Vandril, on va te souhaiter un bon match de soccer cet après-midi. On se retrouve sans faute la semaine prochaine. Et on va souhaiter une bonne saison au CF Montréal qui débute aujourd'hui à 14h face au Toronto FC. Merci, Vandril.
Merci, Jérémy.
Alors, au retour de cette pause, la conclusion de cette émission, en vous rappelant que c'est un après-midi très occupé dans le monde du sport. Je vous redonne les horaires de tout ce qui se passe dans quelques instants.